À la technique. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'être parmi nous parce que ça fait 2-3 semaines que je n'ai que j'ai pas pu être là et je dois dire que vous m'avez manqué. Et je vous donne les salutations de l'église de Versailles avec laquelle j'étais la semaine dernière. En tout cas, ceux qui n'étaient pas partis en vacances. Et aujourd'hui, nous allons voir un thème qui nous montre vraiment l'amour de Dieu et comment est-ce qu'en tant que disciple, on doit suivre l'exemple du Seigneur. Mais avant, je vais vous poser une petite question. Quoi de plus merveilleux que de se marier avec quelqu'un dont on est amoureux et qui, accessoirement, est amoureux de nous? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux dans l'existence que ce moment-là, tant espéré d'avoir une fiancée, un fiancé et de concrétiser ça par un mariage? Alors, il y a peut-être des choses. Ça peut être, par exemple, la venue d'un enfant qu'on a attendu parfois 9 mois, parfois pendant des années. Ça peut être rencontrer le Seigneur Jésus, qui n'est pas sur le même plan, mais qui est quand même quelque chose qui transforme une vie et qui rend vraiment heureux. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose de plus. Les enfants, quand ils grandissent, ils ne rendent pas toujours l'amour qu'on leur a donné, ni les sacrifices. Là, on voit aujourd'hui des enfants qui laissent leurs parents en maison de retraite ou qui coupent les ponts et puis vivent leur vie sans jamais se soucier de leurs enfants. Hélas, ça existe. Ce n'est pas normal, mais ça existe. Dieu, à un certain moment de l'existence, on peut se poser la question. Est-ce que Dieu m'a trahi? Est-ce qu'il m'a abandonné? Pourquoi est-ce qu'il a permis? Pourquoi est-ce qu'il a permis la maladie? Pourquoi est-ce qu'il a permis l'épreuve ou la souffrance? Par contre, quand on regarde dans le temps long, malgré la souffrance, la maladie, la douleur, on peut voir que Dieu ne trahit jamais. C'est ce que nous dit Romains 8 notamment, que ni la maladie, ni le péril, ni l'épée, ni toutes les tempêtes de la vie ne peuvent empêcher l'amour que Dieu a pour nous et sa fidélité. Et si on ne comprend pas toujours, et si on ne lui fait pas toujours confiance sur le chemin qu'il nous fait suivre, quand il permet des choses difficiles, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, et il y a de quoi faire plusieurs prédications dessus. Mais vraiment, je peux attester en tout cas, et l'Écriture atteste, que Dieu est fidèle et bon, et qu'il ne nous trahit pas. Alors soit il ne nous mène pas sur les chemins qu'on a envie qu'il nous mène, parfois on aimerait avoir quelques facilités, quelques bonheurs, quelques expériences, et ce n'est pas ce qui nous arrive, et parfois il y a des choses qu'on voudrait éviter, et le Seigneur permet qu'on y passe, comme certaines maladies, mais malgré tout, une chose est sûre, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, y compris les moments durs et amers de cette existence, et peut y en avoir. Parce que le Seigneur a vaincu la mort, et on sait que après cette vie, il nous consolera de toutes nos peines, et que toutes nos détresses, nos problèmes, nos larmes ne seront rien comparé au fait d'être dans sa présence, d'être pardonné, d'être avec cet ensemble de foules, de personnes sauvées devant le Seigneur, devant son trône. Donc le Seigneur ne trahit pas. Par contre, notre conjoint, on peut bien commencer un couple, on peut bien commencer un mariage, mais hélas, il suffit de regarder notre société, on voit que des personnes qui s'aimaient à un moment peuvent s'ignorer, peuvent se mépriser, peuvent se haïr. Et on a énormément de mariages qui sont détruits par la trahison d'une des personnes. C'est quelque chose de commun. Alors, on va garder ça en tête parce que on va aller fouiller dans la parole de Dieu sur un passage où on a affaire à une trahison. La trahison, là, ça sera d'une femme qui a trahi son mari. Et on va regarder maintenant à Jésus. Jésus qui était quelqu'un qui était assez influent dans sa région, puisqu'il faisait des miracles, il parlait de Dieu comme personne n'a pu parler de Dieu. Et il a créé des jalousies vraiment tenaces auprès des religieux de son époque, qui vont saisir une occasion pour lui glisser une peau de banane, afin de le mettre dans une situation très difficile. Et donc Jésus est là en train d'enseigner avec la foule. Et à un moment, les religieux arrivent et lui posent une question. Et pour ça, nous allons lire dans Jean, au chapitre 8, les versets 1 à 6. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu ?» Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. C'est un cas concret de pratique de la foi. Voilà, il y a une femme qui a été surprise en faisant quelque chose qui n'est pas bien. La Torah, l'enseignement, Moïse a dit des choses particulières dans ces cas-là. Bah, toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, on pourrait dire, bon, bah, il suffit de lire la Bible et puis de se dire, voilà, la Bible dit ça, bon, bah, on va l'appliquer. Sauf que la question est beaucoup plus subtile que ça et elle tend un piège. C'est très subtil parce que, déjà, dans la loi, il est parlé de certains cas particuliers et pas de tous les cas pour lapider quelqu'un. Et surtout, le fond du problème, c'est qu'on est dans un pays qui est gouverné par les Romains, un pays qui est occupé militairement, et seuls les Romains ont le droit de, on va dire, vie et mort sur les gens. Et la pratique de la lapidation, apparemment, ne se faisait plus au temps de Jésus. Ce qui est, on avait pris certaines libertés avec la Torah. Et donc Jésus est face à ce dilemme. Soit, effectivement, il va voir ce que dit Moïse dans ce cas-là, et il dit, ben voilà, la Bible enseigne que, en fait, c'est pas tout à fait une femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère qui doit être lapidée. Normalement, c'est une femme qui est fiancée, qui est surprise, ou un homme qui est fiancé et qui est surpris avec quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, Moïse, effectivement, enseigne que Dieu veut que ces personnes soient lapidées. Alors, c'est ce qui était dans l'Ancien Temps, dans la Torah. Il ne nous demande pas de le faire aujourd'hui. Mais il a permis ça pour qu'on puisse réaliser que pour Dieu, c'était un acte qui est inacceptable. Et des gens sont morts pour nous montrer qu'il n'y a aucune complaisance à faire vis-à-vis de la trahison dans le cadre du mariage. Vraiment, Dieu a voulu marquer la conscience et pour ça, il y a des gens qui l'ont payé de leur vie pour qu'on puisse ne pas rigoler avec ça, qu'on puisse réaliser que c'est quelque chose de sérieux. Jésus, en contraste, lui, vient pour nous montrer la grâce de Dieu. C'est-à-dire, voilà, tu mérites la mort, tu as mal agi, malgré tout, je te laisse la possibilité d'être pardonné. Et il ne nous demande plus en tant qu'Église de lapider les gens, comme il l'a demandé au travers Moïse au peuple d'Israël, mais il faut avoir conscience que devant Dieu, ce qui était bien avant est toujours bien, ce qui était mal avant est toujours mal. Et donc Jésus est face à... Oui, dans le fond, Dieu n'accepte pas l'adultère. Et la personne qui est surprise en flagrant délit d'adultère, normalement, sur la déposition de deux ou trois témoins, dans certains cas, on devait la mettre à mort. Donc là, on a juste une femme, on ne sait pas qui est témoin, on n'a pas le témoignage direct des gens. Déjà, c'est déjà un peu biaisé par rapport à ce que dit la loi. Si jamais... Il fait ça, donc il a des problèmes avec les Romains. Les Romains vont dire de quel droit tu permets de rendre justice, parce que la loi romaine, elle n'est pas comme ça, elle dit autrement. D'un autre côté, si Jésus dit on fait comme si de rien n'était et puis adoucit les choses, on peut lui dire attends, la loi elle dit ça et toi tu dis autre chose. Donc on le prend en porte-à-faux avec la loi de Moïse. Et dans ce cas-là, ceux qui en veulent à Jésus peuvent dire, vous voyez, en fait, il ne suit pas vraiment la loi de Moïse, il est contre la Torah, c'est un faux prophète, c'est un faux enseignant, rejetez-le, ne l'écoutez pas, et accessoirement, les faux prophètes, c'est pareil, normalement, on devait les lapider. Il y a des gens comme Étienne qui en ont subi un peu plus tard les conséquences. Donc, c'est un vrai piège. Le problème de la femme n'est pas un problème pour les religieux. Ce qu'ils veulent, c'est coincer Jésus en le forçant à prendre position publiquement et pouvoir utiliser sa réponse pour, d'un côté comme de l'autre, lui faire du mal. Le fond du problème, donc, c'est l'adultère. L'adultère, ça vient sur le fait d'être coupable d'infidélité envers son conjoint. C'est la trahison de l'alliance et du mariage. C'est quelque chose, comme je l'ai dit, que Dieu prend très au sérieux. Alors, dans notre monde occidental, qui a été imbibé de la parole de Dieu, qui a été imbibé du christianisme, mais qui aujourd'hui en prend énormément, s'en éloigne énormément, c'est quelque chose de tout à fait banal dans notre société, hélas, d'avoir donc des couples qui se construisent et qui se détruisent, ou des gens qui vivent sans être mariés. Cependant, la parole de Dieu nous montre, depuis la Genèse, que Dieu a institué le mariage d'un homme et d'une femme, à la base jusqu'à ce que la mort les sépare, avec cette notion d'alliance, non pas de contrat. Pour notre société, aujourd'hui, si vous allez devant monsieur le maire, vous allez devant un notaire, vous allez créer un contrat de mariage. Voilà, tant qu'on est d'accord, on reste ensemble. Quand on n'est plus d'accord, on se sépare. C'est pas grave, on continue notre vie, on fait autre chose, on se remarie pas, on fait ce qu'on veut. Pour Dieu, la notion vraiment d'alliance, c'est vraiment, ben voilà, on va marcher ensemble sur un temps indéterminé. Et pour sceller l'alliance, on a un exemple entre Abraham et Dieu. On prenait un animal, on le coupait en deux, on faisait ce qu'on appelait « on coupait l'alliance » en hébreu « karat berit » pour montrer que voilà, si quelqu'un trahit l'alliance, voilà ce qui lui arrivera. Il lui arrivera la même chose qu'à cet animal parce que c'est quelque chose de vraiment sérieux où on s'engage entièrement, d'une manière totale. Et c'est le mariage que Dieu prend comme image pour montrer l'alliance qu'il veut faire avec chacun d'entre nous au travers la mort de Jésus-Christ, au travers le pardon des péchés. Vraiment, il ne veut pas simplement nous pardonner, nous laisser vivre. Il veut vraiment faire alliance avec nous sur notre vie entière. Et donc, le fait de trahir cette alliance, ce n'est pas quelque chose de léger. Le conjoint, c'est la personne la plus intime. Quand on se rapproche, on se dit tout, quasiment tout. La personne nous voit vivre dans l'intimité. On partage les forces et les faiblesses. La personne nous connaît. Elle est capable de nous tirer vers le bas ou de nous abaisser, de nous donner des bons ou des mauvais conseils. Et le choix, après le choix de suivre le Seigneur, le choix de se marier, c'est le choix le plus important de sa vie. Parce que bien se marier avec la bonne personne, ça peut vous permettre de construire une vie solide. Mais vous marier avec une mauvaise personne, ça peut vous détruire, vous amener dans la misère, vous amener à fréquenter des mauvaises personnes et à prendre des mauvais choix. C'est vraiment quelque chose de très sérieux. Et donc cette personne la plus intime, en fait, le fait de vivre ensemble, vous prenez une partie de la mentalité et des manières de la personne, c'est ce qu'on appelle le mimétisme, vous choisissez pas quoi. Et après, dans la notion de mariage, vous avez après le fait de faire des enfants qui vont être un mélange tant physique que psychologique entre les deux conjoints. Et donc le fait d'être trahi par une personne avec qui on se marie, c'est une blessure qui est extrêmement intime, qui est extrêmement violente. Quand le conjoint quitte le foyer, quand il y a un abandon, quand il y a une trahison avec un adultère, et que la personne ne revient pas, ça fait des drames. Ça fait des gens qui peuvent être en fragilité, suicidés. Ça peut faire des enfants qui vont naître sans leurs parents, sans leur père, ou qui vont subir le fait d'être avec une belle-mère ou un beau-père, avec plein de problèmes autour. Moi, j'ai déjà rencontré un petit jeune. Sa mère s'était remariée. Le beau-père l'avait frappé et il était obligé de vivre dans la rue. Il vivait de petits trafics et il dormait dehors. Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais ça peut amener jusque-là et ces situations existent. Et donc, Dieu, ayant vu ça, a jugé que l'adultère était quelque chose de mal et qui était punissable. C'est donc une blessure bien profonde auquel le Seigneur ne veut pas rester insensible. Et tout ça à cause de quoi ? Tout ça parce qu'à un moment, Dieu a créé les choses bonnes, il a créé le mariage comme quelque chose de très bon, et il y a eu la chute où l'homme a voulu s'émanciper, il a voulu se libérer des lois de Dieu et être lui-même son propre homme et son propre Dieu. Et à cause de ça, ben, ce monde que Dieu a créé parfait a été souillé, abîmé, et le péché domine dans le cœur de l'homme. Et c'est à cause de ça que Jésus a dû venir sur la croix pour mourir, pour nous libérer de cette emprise du péché, pour nous donner une voie de salut. Donc que dit Moïse par rapport à ça ? Ben, on le voit notamment dans Deutéronome, chapitre 5, verset 18, où il dit « Tu ne commettras pas d'adultère », c'est dans les 10 commandements. Il est dit au chapitre 22, au verset 22, « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme, et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, du milieu d'Israël. » Et dans l'Antiquité, on regarde dans les différents pays de l'Antiquité où on a des traces, à l'époque d'Abraham, on voit notamment que chez les Sumériens, dans le code d'Amurabi, dans le royaume d'Assyrie, chez les Loaïtites, tous ces petits pays, petits et grands, qui n'existent plus aujourd'hui, mais on voyait que là également, l'adultère était quelque chose qui était reconnu comme quelque chose de mauvais, où la sanction, bien souvent, quand les gens étaient pris, c'était la mort. Donc on a un grand contraste avec aujourd'hui. Maintenant, regardons quelle est la position que va avoir Jésus face à ce piège. Donc l'adultère est quelque chose d'inacceptable. C'est inacceptable au point où, oui, Moïse a demandé à ce que dans certains cas, il y ait la mort. Il y a les Romains, il y a l'amour de Dieu. Et dans tout ça, que va faire Jésus? Jésus, on voit qu'il écrit sur le sol, qu'il écoute les religieux. Et on va voir ce qu'il a dit. Donc, Évangile de Jean, chapitre 8, versets 6 à 11. Comme il continuait à l'interroger, en parlant de Jésus, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un et commencèrent par le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusent ? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » La réponse de Jésus est déconcertante. Il respecte la loi de Moïse. Oui, effectivement, c'est écrit. Il y a une condamnation. Il y a une condamnation pour ceux qui font de tels actes. Mais il demande à ce que celui qui est sans problème devant Dieu, celui qui a une vie vraiment droite, entièrement juste devant Dieu, que lui soit le premier à lancer cette pierre. Et là, il y a l'examen de conscience. On peut avoir notre morale, notre manière de vivre, on peut avoir conscience des choses qui sont bien et qui sont mal, et on peut essayer de naviguer pour être à peu près bien dans ce que nous, on pense être bien. Mais après, quand on regarde ce que Dieu, lui, exige, parfois, on en est très loin. Je parlais tout à l'heure des normes de la société par rapport au mariage. Elles ne sont absolument pas les normes de la société que Dieu veut pour le mariage. Et ça, on peut regarder sur tous les domaines. Là, cette femme, elle était dans l'adultère, mais on peut parler aussi du mensonge. Qui n'a pas menti? Dès un simple enfant, on n'a pas besoin de lui enseigner. Il ment d'une manière naturelle. C'est un réflexe humain. Et c'est tellement facile de dire un petit mensonge pour échapper à nos responsabilités, à notre culpabilité. De chercher à se justifier. Dieu, il connaît toutes choses. Le mensonge, ça ne tient pas devant lui. On peut parler du vol. C'est tellement facile par moment, allez hop, pas vu, pas pris. Il y a même des ministres qui font ça. Et pourtant, Dieu, lui, il voit toutes choses. Aussi bien une grosse mallette d'argent qu'un petit détail, un parapluie ou je ne sais pas quoi. Le Seigneur, il est vivant. Et même si on ne le voit pas, même si on n'a pas conscience, il connaît toute notre vie. Et dire qu'on est juste devant lui, c'est assez osé et quand on regarde bien, il n'y a personne qui peut. Parce que notre nature, depuis la chute, elle est corrompue. C'est vraiment comme un joli plat de framboise que vous laissez quelques jours au soleil. Vous avez de la moisissure. Vous avez quelque chose qui, dans notre comportement, dans notre manière d'appréhender le monde, où notre nature est déviée de ce que Dieu a créé. Et le mensonge, alors certains sont plus sensibles au mensonge, d'autres plus à l'adultère, d'autres plus à la tricherie. Mais ces choses-là sont en nous. Et on a besoin vraiment de l'aide de Jésus-Christ pour nous changer par rapport à tout ça. Et donc ces personnes-là se sont dit, à un moment ou à un autre, non. honnêtement, je ne peux pas lancer cette pierre parce que je ne suis pas clean devant Dieu. Je ne suis pas parfait devant le Seigneur. Et au final, il restait une personne qui, elle, était parfaite, qui, elle, aurait pu dire, OK, on va appliquer la loi de Moïse, moi, je peux. Et cette personne, c'est Jésus. Et Jésus, il l'avait dit un petit peu avant, donc là, on est dans Jean chapitre 8, mais dans Jean chapitre 3, il avait rencontré Nicodème, et voilà ce qu'il avait dit à Nicodème. Voilà. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Jésus aurait été le juge, il serait venu en tant que juge. Cette femme était surprise en flagrant délit. Il aurait pu la condamner, il aurait pu la frapper, lui donner le juste jugement. Mais voilà ce qu'il dit à la suite. Il ne vient pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'intention de Jésus, en venant parmi nous, c'était de montrer non seulement que le péché a un coût, le prix de sa vie, mais en plus, donner la possibilité aux pécheurs d'être pardonnés. Aussi, ces hommes qui se disaient proches de Dieu, qui amènent cette femme pour qu'elle soit lapidée, Dieu, il a donné son intention dans la loi de Moïse, mais ce que veut vraiment le Seigneur, c'est quand on prend conscience de la gravité de notre péché, c'est qu'on change, qu'on se repente, parce que Christ, à la croix, il nous donne la voie du salut, la possibilité d'être pardonné, l'opportunité de changer. C'est dans l'Ancien Testament, on a ça, je ne vais pas le lire là, mais vous avez Ézéchiel 33 que je vous conseille de lire. On voit vraiment toute la mentalité de Dieu qui explique cela dans le détail. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le pécheur périsse, mais il use de patience et de miséricorde pour qu'il se prenne conscience et qu'il se repente. Parce que ce que Dieu veut vraiment, il est juste hein, et il veut que le péché soit sanctionné. Mais il veut aussi que la personne qui agisse mal prenne conscience qu'elle a mal agi, qu'elle abandonne ses voies et qu'elle revienne à Dieu qui est prêt à pardonner. La justice de Dieu est satisfaite parce qu'à la croix, le prix du péché a été payé, le prix du péché de celui qui se repent. L'amour de Dieu est satisfait quand le pécheur se repent, parce que Dieu peut lui éviter ce jugement parce que Jésus l'a pris à sa place. Tout à l'heure, on lisait le psaume 91. Le psaume 91 parle des méchants. Les méchants, c'est ceux qui, bibliquement, dans la partie hébraïque, le méchant, c'est celui qui rejette Dieu. Le méchant sera frappé au dernier temps par le jugement de Dieu et ce qu'on appelle l'étang de feu. Une vie éternelle, loin de Dieu, dans une détresse immense, dans des regrets immenses, loin, privé de la présence du Seigneur. Par contre, celui qui n'est pas parfait, qui est comme cette femme pécheresse que Jésus a laissé partir, celui qui prend conscience de son péché et qui lui demande pardon, il échappe à cette condamnation-là. Et même si autour il y a des méchants qui vont partir en enfer, cette personne-là, elle, à partir du moment où on donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, si tu lui demandes pardon et si tu marches dans ses voies, il t'assure la vie éternelle, le pardon des péchés parce que Jésus a payé à la croix. Et par moments, on peut marcher avec Dieu, on peut tomber. Le Seigneur, de la même manière, ne vient pas pour juger, pour condamner, mais il tend la main pour relever, pour repartir. Parce qu'à la croix, il a vraiment payé cet adultère. De la même manière, il a payé toutes nos fautes et nos problèmes. Ce qu'on doit retenir également, nous, en tant que chrétiens, c'est que si le Seigneur a eu ce regard-là vis-à-vis de cette femme qui avait vraiment fait quelque chose de grave pour Dieu, hein. Elle méritait vraiment la mort. Si le Seigneur est venu avec ce point de vue, cet amour, ce fait de ne pas être là pour la condamner et la juger, mais vraiment lui montrer « va et ne pêche plus ». T'as échappé à quelque chose là aujourd'hui. Prends-en conscience. De la même manière, nous, face à ce monde qui se perd, qui est de plus en plus rebelle à Dieu, où on a des hommes et des femmes adultères autour de nous, mais on a également des menteurs, des voleurs, des tricheurs, et des choses qui sont tout aussi inacceptables. Le Seigneur nous demande d'avoir ce même regard. Parce que quand on regarde notre conscience, on n'était pas meilleur qu'elle, et encore aujourd'hui, parce que la sanctification est quelque chose de progressif, Si le Seigneur fouille bien, il pourra toujours trouver des choses qui feront qu'on n'est pas meilleur qu'eux. Donc, est-ce que nous saurons avoir ce regard de miséricorde et de compassion vis-à-vis de ceux qui sont perdus, que nous côtoyons chaque jour ? Que le Seigneur soit béni.